C'est l'histoire d'un forgeron au début du XXe siècle qui devient garagiste, puis le premier concessionnaire automobile à Fort-Calquier et ensuite à Manosque. C'est l'histoire de Henri Jean que nous raconte Marc Jean, son petit-fils, dans un livre où se mêlent récits, photos et anecdotes intitulé « Du forgeron au concessionnaire automobile, Henri Jean, citoyen de Fort-Calquier » aux éditions À façon. Marc Jean expose dans une première partie le contenu global de son livre, puis dans une deuxième partie, il partage sa démarche d'écriture et plusieurs anecdotes.
Marc Jean, comment vous en êtes venu à écrire ce livre ?
En fait, c'est l'histoire de mon grand-père, parce que j'avais imaginé un petit ouvrage pour laisser une sorte de recueil à mes frères et sœurs, à mes enfants et à toute ma parenté, car j'avais la chance, ma mère étant conservatrice, de disposer de pas mal de photos, outre mes documents personnels. Et Henri Jean, mon grand-père, a toujours su, et je m'en étonne encore, faire parler de lui. J'en suis même la preuve. Et il a réussi à se faire prendre en photo dès 1912, et bien plus souvent que les autres membres de sa famille. Voilà pour les sources. Il est né en 1896, il a quatre frères et sœurs, et sa famille habite rue Violette à Fort-Calquier. Son père est forgeron dans un local qui est situé au chevet de la cathédrale. Actuellement, c'est la cave de Régus, pour ceux qui connaissent. Il s'établira ensuite un peu plus bas au 9 bis de l'avenue Saint-Promas. Nous avons une photo où il est à la forge en 1912, il a 16 ans. À la mort de son père, il y a, semble-t-il, quelques dettes. Aucun garçon ne veut prendre la suite. Alors, il part chez les compagnons, tout d'abord à Bordeaux et ensuite à Lyon, pour suivre une formation en serrurerie mécanique. Il est ensuite embauché aux usines de construction des automobiles de La Buire, à Lyon, en 1914, avant de partir sous les drapeaux, où il restera 3 ans et demi. On a du mal à imaginer ça maintenant. Là, il sera dans les ateliers de l'aviation. Libéré de ses obligations militaires, il revient à Fort-Calquier et se marie en 1919. Son beau-père est assez fortuné, et l'aide à s'installer avec son propre fils. Ils vendent des vélos, des motos Alcyon et des automobiles de Dion-Bouton, dont ils sont les agents sur la place du Bourget, au centre de Fort-Calquier. Les pneumatiques sont déjà des Michelin. Pour l'encourager, son beau-père lui dit en provençal « Piccio, l'oujou a mis la nuit, c'est un tout ». Autrement dit, se lever tôt et se coucher tard, c'est le secret de la réussite au travail. En 1926, il fait un coup de pub audacieux en faisant monter sur la citadelle de Fort-Calquier une Ford T, en présence de toute une équipe de mécanos, de membres de sa famille et même d'un curé, comme en témoigne une magnifique photographie. En 1927, il se trouve à l'étroit et il se lance, toujours soutenu par son beau-père, dans la construction d'un vaste garage au 6 avenue Saint-Promas. Pour ceux qui connaissent, c'est actuellement la maison Saint-François. Sur un terrain qui fait face à l'ancienne forge de son père. Il devient veuf avec un enfant en bas âge et se sépare de son beau-frère pour poursuivre seul l'aventure, car c'en est une. Après les Ford, Henri Jean vendra des Matisse. Mais pour vendre des voitures, il faut parfois apprendre aux gens à conduire. C'était pas rien. Sur ces entrefaites, il se remarie avec la meilleure amie de sa défunte épouse, avec Anita, qui est ma grand-mère donc, qui était l'une des premières femmes sténodactylographes diplômées du département. À ce titre, elle est recrutée par Maître Bonirbal, avoué à Fort-Calquier, qui deviendra maire de la ville plus tard. En 1931 et 1932, la maison Citroën fait beaucoup parler d'elle lors de la croisière noire, que certains d'entre vous ont connue, bien sûr, et qui est suivie par la presse internationale. Alors, c'est donc Citroën qui avait lancé une opération publicitaire en faisant toute une boucle en Afrique avec ses véhicules pour démontrer leur robustesse, etc., etc. Après, il y a eu même la croisière jaune. En 1934, il devient concessionnaire de la marque Citroën. Les affaires prospèrent. En 1937, en plus de son garage, il prend la gérance du théâtre municipal de Fort-Calquier, qui est encore aujourd'hui un cinéma, et les jours de bal, la famille déboulonne les fauteuils pour permettre l'évolution des danseurs. Sa sœur Camille tient le guichet. Cette même année 1937, il acquiert un grand bâtiment à Manosque sur le boulevard de la Plaine pour y créer un cinéma. Il engage un architecte qui se chargera des plans et de la surveillance des travaux, et c'est ainsi que se crée le Rex, que certains d'entre vous ont connu, Bon, aujourd'hui, il a disparu, mais beaucoup de manosquins s'en souviennent, et même des Forcalquierens. Et il le gère à ce moment-là avec un associé. En 1939, le garage de Forcalquier est réquisitionné à cause de la guerre et Henri Jean est rappelé sous les drapeaux à la Seyne-sur-Mer dans les ateliers. Heureusement, il n'y restera pas longtemps. Mais à cette époque, l'essence est rationnée. Les véhicules sont équipés pour fonctionner au gazogène, il faut donc du charbon de bois. Le grand-père, toujours aussi entreprenant, achète des parcelles boisées dans le secteur des Mours à Forcalquier, que beaucoup de gens ici connaissent, et embauche des bûcherons pour la fabrication du charbon de bois. La maison Citroën propose au même moment trois types de motorisation qui marchent au gazogène pour les fameuses tractions. Enfin, c'est la libération. Henri Jean fait partie du comité de libération de Forcalquier. Les Citroën se vendent bien, d'autant qu'il va facilement au contact et il sait convaincre. La plupart des discussions se font encore en provençal, il faut le savoir quand même, on a un peu du mal à imaginer ça maintenant. Et beaucoup de contrats se signent au café après une tournée de pastis. La Deux Chevaux arrive en 1949. Elle surprend, mais elle est économique, rustique et abordable. Elle est assez vite populaire, à tel point que les délais de livraison sont parfois d'une année. À cette époque, il fallait aller chercher les voitures à l'usine du Quai de Javel à Paris. Et c'est l'occasion pour le grand-père de faire la fête avec ses fils ou ses employés. La maison Citroën le pousse à s'agrandir et à s'installer à Manosque. Il débutera en 1945 dans un local au bas de l'avenue de la Gare, qui s'appelle maintenant l'avenue Jean Giono. Et il se fait rapidement connaître, bénéficiant de la popularité qu'il avait à Forcalquier et de son sens inné de la publicité. En 1953, il devient membre du Rotary Club de Manosque, où siège également Jean Giono, avec qui il sera lié d'amitié, et qui le reçoit souvent dans sa maison du Parais. Il est désolé de ne pas pouvoir vendre une voiture à Jean Giono, car comme vous le savez peut-être, Jean Giono ne conduisait pas. Mais ils avaient des sujets communs sur le pays et sur les chevaux, notamment que Giono a largement décrit dans ses livres, et que le grand-père connaissait pour les avoir ferrés à la forge de son père. Recherchant une position plus centrale à Manosque, vers 1955, Henri Jean s'associe avec M. Gilibert, et ensemble, ils font réaliser un grand immeuble place du docteur Joubert où ils concentrent leurs activités, l'un avec les machines agricoles, l'autre avec le garage Citroën. S'y ajoutent des locaux commerciaux annexes et des logements sur quatre niveaux. Ils ont alors toutes sortes de difficultés car au départ, ils voulaient implanter leur immeuble au plus proche de l'avenue Jean Giono pour être bien visible. Il y a eu des difficultés avec les services de l'équipement ou de la mairie, je ne sais plus les détails, voilà. Donc, ils ont finalement eu les autorisations, mais l'immeuble a été réalisé en fond de parcelle. Les travaux sont longs et compliqués à cause des événements d'Algérie qui affectent l'économie. Mais les travaux s'achèvent. Henri Jean, en tant que concessionnaire Citroën, a de nombreux agents très dévoués qui sont souvent comme lui des passionnés de la marque. Certains font même des rallyes avec des tractions comme les frères Martel de Banon. On a des photos qui racontent ça sur des tractions, quoi. Henri Jean est nommé juge au tribunal de commerce de Manosque. Il habite désormais Manosque et ne manquerait pour rien au monde la partie de belote partagée avec des amis, le plus souvent au Café Glacier, juste avant de retourner au travail. À cette époque, il est aussi élu au conseil municipal de Forcalquier, où il vient en famille tous les lundis pour l'incontournable marché où beaucoup le connaissent. Son séjour dans l'aviation a laissé à Henri Jean de bons souvenirs, et j'ai appris récemment, grâce à Monsieur de Théris, qui habite au plan, là, à Mannes, que mon grand-père avait eu le projet de faire réaliser un petit aérodrome à Mannes sur les terrains incultes, pas très loin du château de Sauvan. Alors ça, si Monsieur de Théris me l'avait pas dit, je pouvais pas le deviner. En janvier 1964, il est nommé chevalier de l'ordre du mérite commercial et industriel par le ministre des Finances et des Affaires économiques de l'époque, M. Giscard d'Estaing. En avril 1966, il reçoit le diplôme d'honneur de la Chambre syndicale nationale de commerce et de la réparation automobile. les belles déesses ont du succès jusque chez le président de la République. On se souvient du général de Gaulle descendant la Champs-Élysées. Et poussé par la maison Citroën, très vite à l'étroit dans ses locaux de la place du docteur Joubert, Henri Jean se lance à nouveau vers 1967 dans un projet d'envergure, route de Marseille à Manosque, à l'intersection avec l'avenue Georges Pompidou. Il s'ensuit de gros soucis financiers qui le conduisent le cœur brisé à vendre le garage de Forcalquier. Il fête cependant ses noces d'or dans l'automobile. Il devient président d'honneur du syndicat l'automobile qu'il a lui-même créé. Cependant, après bien des difficultés, il devra décrocher le panneau Citroën en 1970, après avoir été un fidèle de la marque pendant plus de 35 ans. Son fils aîné lui succédera en vendant des Renault. À Forcalquier, le garage avec logement qu'il avait créé en 1927 et où toute ma famille a vécu avait été vendu à la distillerie de Luant, qui, après plusieurs années, le revendra à son tour à l'association Terrasseau. Le logement deviendra le presbytère et les locaux des salles de catéchisme ou de réunion avec possibilité de petits hébergements. Le bâtiment rebaptisé Maison Saint-François sera inauguré par Mgr Pontier, alors évêque de Digne, le 7 octobre 1995. Actuellement, le père Didier Chave, curé de Forcalquier, que certains manosquins connaissent bien, habite dans notre ancien logement. Comme vous le voyez, mon grand-père était très dynamique, même face à l'adversité. 3 ans et demi de guerre, un veuvage, la seconde guerre, les difficultés financières, et j'en passe. Est-ce que cela provenait d'une enfance modeste et de sa position de troisième enfant devant s'affirmer devant ses aînés? Pas seulement, certainement. Je pense qu'il y avait un caractère bien affirmé et surtout une grande volonté qui, réunie, lui permettait d'entraîner les autres, les membres de sa famille, en tout premier. Avec ses employés, il recherchait toujours le consensus, se souvenant sans doute de ses propres débuts. Mais nous ne pouvons exclure pour autant le facteur chance, qui est, comme nous le savons, en tout premier, une bonne santé, et en second, une époque charnière où, au niveau mondial, on passe de la traction animale à la traction mécanique, générant ainsi, notamment, un formidable développement de l'automobile. Henri Jean est mort en 1990, à 94 ans, à Manosque, et il est enterré à Forcalquier. Alors, à la fin de ce petit livre, j'ai cru bon d'étendre mon sujet en racontant la vie des gens de l'avenue Saint-Promas. Pour dépeindre certaines personnalités parmi les clients qui fréquentaient le garage tenu par mon grand-père, puis par mon père, des gens comme l'éditeur Robert Morel ou l'abbé Pierre Martel, fondateur d'Alpes de Lumière.
Merci Marc Jean. Comment vous en êtes venu à écrire ce livre? C'est-à-dire que c'est une histoire familiale ou c'est aussi une fascination pour cet homme qui avait une vie assez incroyable puisqu'il était investi dans le domaine automobile, mais très impliqué dans la vie économique locale de Forcalquier, de Manosque, ou c'est peut-être les deux, ce souci de l'histoire et c'est cette filiation?
En fait, oui, il y a... Déjà, il y a l'homme qui a cette personnalité forte, cette envie de faire, de réaliser, etc. Mais ensuite, il y a le fait de transmettre quelque chose à la famille, parce que avoir des petits bouts comme ça de photos et de documents, c'est une chose, mais réunir tout ça sous un livre, il y a une autre matière. Surtout, moi, je pense que des gens comme ça sont importants parce que ils donnent envie à d'autres de se lancer dans des aventures pareilles, quoi. Parce que il s'est pas découragé, quoi.
Comment vous avez travaillé pour écrire ce livre? Vous avez des archives ou c'est simplement une histoire orale?
Alors, il y a beaucoup d'archives familiales. En fait, ma mère a heureusement gardé beaucoup de choses. Le grand-père lui-même m'en avait donné pas mal. Et puis, quand j'étais ado, il me disait, oh, tu sais, ma vie, ça vaudrait un livre, etc. Enfin, Bon, moi, je trouvais qu'il en faisait trop, mais finalement, je me suis pris au jeu.
Donc, c'est vraiment des archives intrafamiliales.
Oui, et puis locales. Dans les... Bon, il y a des documents très, très rares, en fait. Vous vous rendez compte, on est quand même en 1910, par là. On voit son père, avec ses ouvriers, en train de ferrer une roue de charrette à Fort-Calquier, et c'est pas des inconnus, c'est pas une carte postale sortie de je ne sais quel village, c'est à Fort-Calquier, avenue Saint-Promas, quoi. Voilà, ça c'est rarissime, enfin c'est précieux, pardon, à défaut d'être rarissime, c'est précieux.
Et pour écrire ce livre, vous n'avez pas consulté d'historiens spécifiquement, ou bien vous avez aussi utilisé peut-être des livres d'histoire ou des livres de la région?
Non, pas spécialement, parce que je suis resté vraiment sur du local. J'avais effectivement, il y a des sources avec d'autres documents. Par exemple, il y a des photos qui figurent dans un livre de Jean-Yves Royer que je cite d'ailleurs, parce que elles m'ont permis de montrer notamment là où l'arrière-grand-père, cette fois c'est pas le grand-père, c'est l'arrière-grand-père, avait sa forge au chevet de l'église, quoi. C'est un recoupement de choses locales, quoi. Mais
et ce livre, rappelons-le, il y a du texte, mais il y a aussi beaucoup de photos, voire des extraits de journaux, des publicités, des demandes de permission d'ouvriers.
Oui, tout à fait. Oui, quand le grand-père était à nouveau réquisitionné à la Seconde Guerre, il avait besoin de certificats pour venir chez lui, etc. Donc il y a tout ça, quoi. Et puis ses médailles, il était très fier d'avoir obtenu du ministre sa décoration.
Voilà. Vous avez aussi construit un objet assez original, parce qu'il est diversifié dans ce qu'il propose en termes de visuel et d'écrit.
J'ai essayé de faire ça, en tout cas, oui. Ce sont des photos des photos des Américains, quand ils ont fêté la libération un an après, hein, c'est pas au moment de la guerre, ça, c'est l'année d'après. Et ça, c'est une photo assez étonnante. Celle-là, elle est place du marché à Fort-Calquier. Et le grand-père Jean a pris une deux chevaux décapotable, pas une camionnette. Et il a mis dedans des moutons tenus par des filets en corde pour faire voir aux paysans du coin qu'on pouvait mettre des moutons dans une deux chevaux, qu'il n'y avait aucun souci. Pour faire sa publicité, le grand-père avait mis sur la place du Bourget à Fort-Calquier une voiture moteur tournant, volant bloqué avec une corde pour qu'elle tourne en rond. Il avait mis un gamin au volant. Bon, le véhicule devait tourner en première très lentement pour faire voir que c'était très maniable, que n'importe qui pouvait...
Il est question d'une histoire de voiture dans ce livre. Pour conduire une voiture, il faut savoir conduire. Comment ça se passait à l'époque?
Alors, c'est tout le problème. J'évoque ça dans un petit passage du livre où le grand-père, il est sollicité par un notaire. C'était un notable, quoi. Il fallait qu'il soit parmi les premiers à avoir une automobile dans la ville. Alors, ils se mettent d'accord sur le modèle de l'automobile, sur le prix, tout ça. Et seulement, le notaire lui dit, vous savez, je sais pas conduire. Oh, le grand-père lui dit, je vais vous montrer, c'est pas grave. Alors, il lui fait faire quelques manœuvres comme ça dans le garage et tout. Puis après, il lui dit, venez, on va faire un morceau de route. Alors, il embarque le notaire. Le grand-père lui dit, je vous montre, voilà, voyez, là, vous faites comme ceci, comme cela. Ils partent vers la phare, là, en direction de Pierre-Rue. Et puis, à un moment, il s'arrête. Le grand-père lui fait encore un peu de démonstration à l'arrêt. Et il lui dit, maintenant, prenez le volant. Alors, le notaire, il est pas très chaud. Il lui dit, oh, tu fais bien, toi, retourne-moi. Et donc, il a fallu certainement qu'il y ait d'autres leçons derrière. Le notaire n'était pas prêt à conduire directement.
Ouais. Ce qui prouve aussi que ce livre, c'est vraiment aussi une succession d'anecdotes. Et j'imagine qu'il y en a énormément en une vie si longue.
Oui, il y en a. Et puis, par exemple, je parle un peu plus vers la fin du livre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des artisans qui étaient dans le secteur. Je parle d'un charron qui a beaucoup marqué mon enfance parce que j'avais juste la route à traverser pour aller voir ce qu'il faisait. Et ça me passionnait de le voir avec tous ses outils. Et à côté du charron, il y avait... les forgerons qui avaient pris la suite de mon grand-père, quoi. Donc là, on voyait encore des gens qui ferraient les chevaux, des gens qui faisaient toutes sortes de pièces à la forge. Voilà. C'était très vivant pour moi quand j'ai voulu raconter ça aux enfants, quoi, pour leur dire, ben, ça se passait comme ça, quoi.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que il marque vraiment un changement de siècle, un changement civilisationnel. C'est d'ailleurs très bien résumé dans le titre, qui est du forgeron au concessionnaire automobile.
Absolument, oui, oui. Et je crois que je l'ai évoqué, mais parce que c'est vraiment l'articulation, c'est le moment où on passe, où on abandonne la traction hippomobile pour passer à la traction automobile, quoi. C'est vraiment la charnière, quoi. Et le grand-père s'est engouffré dedans et ça a été... sa chance, quoi. Il s'est beaucoup démené, il était très actif. C'était l'évolution, l'automobile, quoi. C'est comme Internet maintenant, quoi. C'est formidable.
Et lorsque vous racontiez l'histoire de votre grand-père que vous avez retranscrit dans le livre, vous parliez notamment du fait qu'un des véhicules avait été monté à la citadelle de Fort Calquier, ce qui semble assez incroyable quand même quand on voit la citadelle, parce que elle est haute, la route qui mène est plutôt étroite et plutôt piétonne. Alors comment on arrive à monter une voiture à la citadelle ?
En fait, je me suis fait confirmer cette histoire par un ami de mon père et qui a regardé, qui a reconnu beaucoup de gens qui sont sur la photo et qui m'a dit oui, c'est bien une Ford T, mais elle a été délestée, on lui a enlevé les ailes pour pouvoir... la faire passer sans toucher le rocher là-haut. Et dans le livre, je prends la peine d'expliquer le circuit, c'est-à-dire les manœuvres à faire, les avant, les arrière, etc. Ça va vous paraître provocant, mais moi, je suis prêt à faire la démonstration que je peux encore faire monter une deux chevaux là-haut, mais je prendrai aussi la peine d'enlever les ailes. Voilà. Mais en manœuvrant, on peut y arriver.
Le défi est lancé. Ce livre, est-ce que vos enfants l'ont lu?
Ah oui, bien sûr. Ils m'ont posé plein de questions d'ailleurs parce que ils connaissaient une partie de l'histoire, mais ça a conduit à d'autres questions, bien sûr. Oui.
Si on est intéressé par votre livre, est-ce que vous pouvez nous donner des lieux où on peut le trouver ?
Oui, à Fort Calquier, vous pouvez le trouver à la Carline et à la Maison de la Presse. À Bannon, vous pouvez le trouver au Bleuet, à Château Arnous. À la librairie de Filampage, à Manosque, la librairie Les Mots du Monde de Place Saint-Sauveur, et vous pouvez même le trouver au Citromusée de Castellane, c'est-à-dire au musée Citroën, en précisant qu'il n'est pas ouvert toute l'année.
Eh bien, merci, Marc Jean.
C'est moi qui vous remercie.